Françoise Tressart et la belle équipe en piste pour la saison 30. Oui, vous avez bien entendu. À l'affiche du jour, joli dimanche, chez Riemayer pour le jeu en chanson. Et puis le tourisme minimal de Jacques Jouet, une expérience testée par quelques papous dont Odile conseille.
Ce jeudi à 8h43, nous avons été alertés par un certain Simono, vendeur à la poissonnerie Lorenzo, qu'un groupe d'individus étranges en maillot de bain et palme déambulait dans le marché Richard Lenoir.
Côté noir, la lettre d'excuse par Lucas Fournier et Jacques Bertrand. Ensuite, et à mots couverts, Jean-Bernard Pouy nous parlera d'une certaine œuvre.
C'est une annonce. Jeune célibataire cherche compagnie. Je suis seul et en définitive, je ne le mérite pas. Parce que je suis belle, fraîche et comme le disent les jeunes, je suis bonne également.
Enfin, le DLA de la rentrée au diagnostic littéraire à l'aveugle. Avec Dominique Muller, Eva Almassy, Patrick Beignet et Patrice Minet. On ne se quitte plus jusqu'à 13h58. Salut amical à Pablo Gignoli en studio avec nous pour sa version aux bandes de néon de la musique des papous dans la tête. Pour la réécoute ou le podcast, c'est tout simple, direction franceculture.fr après l'émission. Ainsi, vous pourrez nous emmener partout avec vous et nous garder dans la collection de vos moments de radio préférés. Merci à tous pour votre complicité fidèle et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et pour ouvrir les papous du jour, une nouvelle série par Dominique Muller, Les Jolis Dimanches, premier épisode. Dominique à la manière
de Nerval, El Desdimanchado. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince du dimanche à la sieste abolie. Mon seul congé est mort et au boulot collé, je porte un café noir et de méchants colis. Dans le bruit du travail, toi qui m'as consolé, rends-moi le beau dimanche au parfum d'aïoli, le jour qui plaisait tant à mon cœur désolé, et le vin où l'alcool à l'ivresse salit. Étais-je en barque à pied, couché sur le gazon, mon front est rouge encore du baiser du soleil, en éventail se déployait alors l'orteil. Et j'ai 100 fois vaincu par ce jour de prison, rêvé à mon loisir, lait que j'aurais tété, El Desdimanchado, posant mes RTT.
Je, tu, il ou elle rimaille, pour donner sa définition, un brin subjectif d'un mot imposé. Nous vérifierons si tous les sens figurent dans le poème qui va suivre, dont la forme sera librement choisie et interprétée par le rédacteur Hervé Le Tellier, avec le soutien de Violaine Schwartz. Alors Hervé Le Tellier, je vous ai offert un mot qui nous concerne tous au papou dans la tête, c'est le mot « je », J-E-U. Sans le « je », pas de papou dans la tête. Et vous avez donc écrit une définition, votre définition du mot « je » sous forme de poème. Et attention, attention à vous, vous allez être contrôlé par Gérard Mordia, qui est un très bon contrôleur, assez indulgent d'ailleurs. Quand il y a des oublis, il passe très vite.
C'est pas l'image qu'il donne.
Ah, c'est très bien, parce que l'oubli fait partie de la définition. Il faut savoir oublier les mots pour les réinventer.
Oh, bon, vous voyez, donc, il a établi la règle de base.
Voilà. La règle du jeu.
Ça se passe comment, le jeu, pour vous, Hervé?
C'est un poème.
Oui.
C'est un poème qu'on peut dire moderne.
Oui.
Et qui peut-être pourra donner naissance à une variation musicale, peut-être.
Oh, chic, chic, chic.
Oui,
pourquoi
chic,
peut-être
chic,
oui,
peut-être.
Sûrement, vous avez une chanteuse à côté de
ah,
vous,
bah alors,
c'est Violaine Schwartz.
Bonjour, bonjour, Violaine.
Vous voulez bien l'aider un petit peu
oui,
sur la chanson,
oui.
Violaine?
Oui.
Eh bien, on écoute d'abord le parler, hein, c'est une petite
oui.
assurance.
Joue, petite fille, aux jeux érotiques, aux jeux périlleux, aux jeux olympiques, jeux tactiques, jeux fous, jeux d'ombre et de dingue, lumière, quille, chat, souris. Joue, petite fille, amour et hasard, viens corser le jeu, c'est éducatif, jeu passion, jeu vidéo et des interdits. Viens te prendre au jeu, viens gagner au jeu, jeu de séduction ou bien jeu de main, de vilain, de masque, de cartes et d'échecs, violent. Ne siffle pas les arrêts de jeu, mais cache-le ou bien vois clair dans mon jeu de croquet, de cirque, d'acteur et de dupe, vérité.
Tu te sens qu'il y avait une gravité dans le jeu. Moi, j'avais.
Je pense que c'est bien le lire.
J'avais une barre à l'estomac.
Que... Bah oui, je sais, c'est terrible.
Ah oui, oui, ouais. Non, mais parce qu'en fait, vous êtes papou et en plus vous êtes oulipien, donc vous prenez le jeu très au sérieux.
Très au sérieux. Hein. Si vous voulez, je suis du côté du game, mais pas du côté du play, comme on dit en anglais.
Faut pas rigoler avec le jeu, avec vous. Alors, avant d'entendre la version chantée, qui va sûrement être extrêmement joyeuse, je vais demander à Gérard Mordillat s'il a vu des omissions par rapport à la définition de notre dictionnaire de référence. Parce que le jeu était très concentré chez Hervé.
Oui, c'était un jeu concentré d'omissions, justement.
Ah bon?
Et c'était le jeu lui-même. C'était comment passer à travers les différents pièges de la définition pour les éviter, se glisser dans le O de définition, sauter sur le I et jouer avec les mots. Il a fait ça très bien.
Mm-hmm.
Mais le jeu est un jeu. Et donc, je crois qu'il faut maintenant essayer la nouvelle version. Avoir une deuxième chance au tirage, si je puis dire.
Bon, il n'a absolument pas eu le temps de lire la définition, Gérard, qui est très très longue, effectivement.
Ah, il y a deux pages entières du dictionnaire.
A-t-il traité le jeu de l'amour et du hasard?
Ah oui, bien sûr.
Mais sans traiter Musset, non.
Non, mais il a très bien traité des jeux d'adresse. Peut-être aurait-il pu faire un excursus sur le loto ou la roulette, voire la roulette russe.
Ah oui.
Oui, qui sont considérés comme des jeux.
C'est pas très slave. Oui,
non, c'est vrai. Il y a des jolies petites citations ou pas?
Il y en a une très belle qui est « Le jeu est un autre » de Omar Sharif.
Ah oui, ça, c'est de vous, non?
C'est dans le dictionnaire.
C'est tout. Quelqu'un d'autre a une définition du jeu? Non. Et dans le dictionnaire, vraiment?
Dans le dictionnaire, là, j'en vois une que j'ai sous les yeux. « Il est trop tard maintenant, les jeux sont faits. » Je n'y puis rien changer. Michel Butor.
Ah ouais.
Les jeux sont faits. Ouais. Voilà.
Ça aurait pu être le joueur de ce Dostoïevski, mais.
Oui, c'est vrai.
C'est Butor.
Il n'a pas traité la règle du jeu, quand même, de Renoir.
Bien entendu.
Un petit peu dommage, ça. Bon, vous pourrez faire des petits ajouts et on va écouter la chanson.
Oui.
Il faut vous donner une note, non? Ça va, Violaine?
Surtout pas.
Non, on donnera la note après.
Non. Joue. Petite fille, aux jeux érotiques, aux jeux périlleux, aux jeux olympiques.
Je, tac, tic,
je,
fou,
je,
d'ombre,
de...
dingue, lumière, quille, chat, cerise.
Joue, petite fille, amour et hasard, viens corser le jeu, c'est éducatif. Je,
passion,
je,
vie,
des
hauts
et des
interdits, quille, chat. Cerise.
Viens te prendre au jeu, viens gagner au jeu, jeu de séduction, ou bien jeu de...
Main.
De.
Vilain.
De.
Masque.
De.
Carte.
De. Idée.
Chèque. Violent. Quille. Chat. Cerise.
Ne siffle pas les arrêts de jeu, mais cache-le, ou bien voix claire dans mon...
Jeu.
De.
Croquet.
De.
Cirque.
D'acteur. Et de...
Dupe. Frité. Quille. Chat. Cerise.
Sur le gâteau.
Shiba. Pow. Blop. Oui. Shiba. Pow. Blop. Oui.
Des papous dans la tête, saison 30, et toujours sur France Culture. Waouh. Quel bonheur de fêter les 30 ans d'une émission. Merci à Bertrand Jérôme qui l'a créé. Nostalgie du duo BJFT. Nous fêterons cet anniversaire dimanche 30 novembre prochain, 30 ans, 30 novembre, de 11h à 19h, toute la journée à la Maison de Radio France. Alors, cochez la date sur votre agenda, on en reparlera. Pour l'heure, parlons tourisme minimal avec Jacques Jouet. Jacques Jouet, il est comme ça, il a la bougeotte, mais attention, il n'a pas participé au record absolu du 2 août dernier sur les Hauts-de-France, vous savez, les 1000 kilomètres de bouchons cumulés, non. Mais il a su, tout en écrivant, et oui, les écrivains ne prennent jamais vraiment de vacances, il a su faire de brèves escapades sans exploser son bilan carbone. Alors il nous raconte, et on teste l'idée, avec Odile Conseil, Hervé Le Tellier, Eva Almassy et Jacques Vallée. Et on vous la conseille peut-être pour les loisirs de septembre. Jacques Jouet, on est tout oui.
Quand je sens, au creux de ma voûte plantaire, une certaine démangeaison que je reconnais entre mille, une fatigue de la station assise à mon bureau des heures devant l'ordinateur, quand il me vient devant le sac à dos l'envie de le vider de fond en comble, d'en faire l'inventaire et de jeter la moitié des choses accumulées tout un trimestre, qui sont inutiles. Quand je lève le nez vers le sillage des avions de ligne dans le ciel azuréen, ou le clignotis des gros porteurs dans la nuit où étincellent les 7 punaises de cuivre de la Grande Ourse, alors je sais que je vais partir pour les vacances et faire le touriste. Être touriste, c'est toujours un peu faire le tour de quelque chose. Nul besoin d'un aéroport, d'une gare centrale ou routière, d'une voiture de location, d'un camping-car ou d'un vélo de randonnée. Ce quelque chose dont je ferai le tour, pour moi, c'est le marché.
Oui.
Et nul besoin d'aller jusqu'à Brive-la-Gaillarde. J'habite à 2 pas du marché Richard Lenoir à Paris, entre la place de la Bastille et la rue Breguet. C'est très simple. Je bourre mon sac à dos de divers effets et je me dirige à grands pas vers les vacances. Arrivant par la rue Breguet, je tombe immédiatement sur le poissonnier. Lorenzo, stop ! Au feu rouge, avant de traverser le boulevard dont le flux de circulation automobile est considérablement réduit par le parquage en épi des gros camions des marchands, j'enfile mon caleçon de bain, je chausse sur le visage mon masque de plongée, mes palmes aux pieds, je mords dans le plastique de mon tuba. Ainsi accoutré, je plonge dans la foule et je vais ramasser une 10aine d'oursins à l'étal.
Wow.
Lorenzo, qui ne se surprend plus de rien, me hèle entre 2 engueulades de son personnel. « On parle aux clients, Simono !» pour m'indiquer sous la glace un bon coin pour les palourdes. J'en remplis un seau jusqu'à ras-bord. Ah, les belles vacances! C'est que maintenant, à force d'être le touriste de service...
Je fais plus les courses avec Jacques.
Non, tu veux pas être pris en photo à côté de lui.
J'ai peur que tu prennes une photo et d'apparaître à un moment donné dans un réseau social à côté d'un type en tuba au marché Richard Lenoir.
C'est que maintenant, à force d'être le touriste de service, les commerçants me connaissent. Ils me connaissent bien. Et ils sont extraordinairement bienveillants et compréhensifs, aimables avec le touriste, prêts à se mettre en quatre pour entrer dans leur petit jeu. Tiens, par exemple, après le poissonnier, je sors mes bottes de mon sac à dos, je sors une bêche et je m'approche du marchand de patates. Ah, voilà le touriste, comment ça va ce matin, le touriste? Il va aller la déterrer lui-même, sa BF-15, elle est belle, ma BF-15. Et j'attaque la terre au pied des arbres municipaux pour remplir mon cabas. Je ne sais pas pourquoi... Il se met toujours à tomber une petite pluie quand je ramasse des pommes de terre. Mais c'est pas bien grave, je suis équipé. Et puis ça dure jamais bien longtemps. Tenez, regardez, le rayon de soleil qui se pointe là. Juste le temps de me remettre torse nu en Bermuda et de sortir de mon sac l'échelle double et le panier. 1 kilo de cerises, Mme Burla. Oh ben, vous allez les cueillir vous-même, hein, comme d'habitude. C'est comme ça les touristes, ils ont bien le temps. Je déplie mon échelle, je la dresse. Madame Burla est montée sur son étal et s'est accrochée les cerises doubles sur les oreilles, entre les doigts. Elle adore faire le cerisier, Madame Burla, avec sa petite jupette sur ses belles cuisses. Et puis, je prends mon temps, je fais la cueillette. On est beaucoup photographiés à ce moment-là, Madame Burla et moi. Photographiés par de faux touristes qui, eux, viennent de loin, d'Angleterre, de Hollande, de Prusse. Un touriste photographié par un autre touriste, c'est un peu un comble, hein. Ben, c'est ainsi. Merci, Mme Burla. Oh, il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce que vous allez faire à présent? C'est qu'il faut occuper son temps quand on est touriste. Qu'est-ce que je pourrais encore faire dans ma belle journée de touriste? Ah, mais oui, le harpon. Il faut que je monte le harpon au bout du pistolet. J'aperçois le coin du bar à Aran. Attention, écartez-vous un petit peu. Je ne voudrais pas faire un accident. Ou plutôt, oui, plutôt les harengs sauce piment. Attention, je vais tirer. Tchac! Plein dans le mille. Et je ramène mes harengs. Ah, les belles vacances avec les produits locaux. Ça, c'est du tourisme.
Mais vous diriez quand même qu'il y a de quoi satisfaire une journée entière.
Oh, comment une journée entière?
Ah ouais, ouais.
Mais le marché commence à 7h le matin et il se termine quasiment à 15h.
Ah oui, c'est ça.
Et puis il n'est pas encore allé à la pharmacie pour pour chasser le calmant.
Non, puis après, il va avec les éboueurs pour ramasser le... Ouais.
Les nettoyeurs municipaux, les éboueurs.
Ouais, Alors, Eva Almassi, moi, je trouve que ça a l'air assez excitant. Peut-être pas selon la saison, d'ailleurs, le marché.
C'est exactement mon point.
Ah, voilà.
Exactement.
Oui. Vous êtes allée pour nous?
Non, je suis Madame Burla. Je suis toujours là.
Ah, et c'est vrai que vous avez vos 2 cerises à chaque oreille. Je n'avais pas vu du premier coup d'œil. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de notre touriste? Il est un peu bizarre, quand même.
Oui, mais j'ai de l'affection quand même pour lui.
Ah oui?
Ouais, oui.
Même Burla.
comme je l'attends, ce beau monsieur torse nu en Bermuda, avec son échelle double et son panier. Fidèle, il vient, il sait que j'adore faire le cerisier et que je suis généreuse. S'il veut goûter, ma foi, qu'il goûte donc. Je dis pas non. Mais il est bien plus court le temps des cerises que son échelle double. Fidèle en juin, infidèle dès juillet. Mes cerises sont désormais aigres, ce sont des cerises griottes. Il passe son chemin, le goujat, il achète ses framboises chez Françoise.
Oh!
De la pire concurrence.
Pas bien, ça, oui.
De la pire concurrence. C'est melon chez Madame Pastèque, c'est Charlotte chez Charlotte, qui a, c'est vrai, une mine de déterré.
Il est volage, ce touriste.
Après le cerisier, j'ai beau faire le poirier, un chez moi pour être zen. J'ai beau avoir le derrière en forme de pomme.
Oh, Mme Burla.
À m'accrocher des courgettes sur les oreilles.
Ah bon, heureusement.
Comme un quincailler. comme des quincailleurs, crayons. Rien à faire. Touriste, voilà, je vais. Juin prochain, si tu me piques encore de mes cerises, Burla, je n'y verrai plus que du vol à l'étalage.
Oh, l'atmosphère est tendue avec Mme Burla en ce moment.
Oui, la menace est claire. Hein. Mais vous avez l'habitude de lui croquer les oreilles, c'est ça?
Oh, bah, vous savez, quand on essaie de croquer une cerise, parfois il y a des choses qui viennent avec.
Hervé Le Tellier, vous êtes quelqu'un sur ce marché, dans ce marché,
oui,
à côté du marché.
J'ai travaillé pour ma part pour le syndicat d'initiative de Brive-la-Gaillarde, qui est mentionné à un moment donné. Je me permets d'envoyer une lettre à Monsieur le Président.
Oui.
Du syndicat d'initiative. Cher Monsieur le Président, cher ami, je vous adresse 6 juin comme convenu quelques notes concernant la redynamisation du marché de Brive-la-Gaillarde. Comme vous le savez, depuis 6 mois, la présence de Jacques Jouet sur le marché Richard Lenoir a créé un regain d'activité notable, plus 5% par mois, une croissance constante. Vous voyez les chiffres. La population locale tend désormais à fréquenter plus assidûment le marché et donc à consommer plus lors de ces pics de présence de M. Jacques Jouet. Et vous voyez la correspondance totale entre les pics de présence et le chiffre d'affaires directement corrélé à la présence de M. Jacques Jouet sur les lieux de vente, voire schéma. Alors, vous trouverez 6 juin les courbes respectives de M. Lorenzo Sandro, le poissonnier, plus 37%, et surtout de Mme Burla. Et oui, Mme Burla Simone, plus 105%, malheureusement uniquement saisonnier.
Ah oui, c'est ça.
Et oui. Alors, je suggère donc de reproduire le mode opératoire de M. Jacques Jouet sur le marché de Brive-la-Gaillarde, ainsi bien sûr que ses costumes, voire photos ci jointes. Les matériels et accessoires sont amortis en une semaine, selon mes calculs, voire notes ci jointes. Il serait utile de faire appel à un professionnel du spectacle vivant, plutôt qu'à un volontaire.
Et oui.
Nous vous joignons la vidéo Burla Jouet sur l'échelle pour que vous preniez conscience du caractère spectaculaire et théâtral, voire scénique du dispositif, ainsi que des dangers qui méritent une assurance spécifique. Vous trouverez 6 juin une feuille d'honoraire au nom de Big Malion. Et vous prie d'accepter, cher monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Ça, c'est excellent comme initiative, hein, absolument.
C'est pour ça que c'est un syndicat du même nom.
Oui, exact. Oui, Jacques Jouet.
Il y a toujours des bagarres au marché de la Gaillarde. Alors, moi, je n'irai pas.
Hein. Ah oui, mais elles sont en chanson, écoutez.
Elles sont en chanson, peut-être.
C'est joli, c'est joli. Jacques Vallée, vous êtes quelqu'un du coin?
Mais moi, je suis le poissonnier Lorenzo et je confirme tout à fait les propos du syndicat d'initiative, effectivement.
Vous êtes devenu riche?
Ah, c'est même tout le marché, hein. Jacques Jouet, nous l'avons embauché sur le marché pour faire l'animation. Crise oblige, la clientèle était de plus en plus clairsemée. C'est comme ça, ces numéros attirent les curieux. C'est moi qui ai eu l'idée de l'embaucher le dimanche, le poète.
Non, mais c'est vrai que les poètes, ça vit pas autrement.
Ben, surtout le dimanche.
Ça mange pas.
Je savais que c'était un bon acteur, mais alors quel clown exceptionnel. Là, il crève le marché.
Ah oui, comme on crève l'écran.
Oui.
Mmh. Oui.
Ah
oui.
Depuis qu'il arrive en caleçon de bain, avec masque de plongée et palme aux pieds, les gens s'agglutinent autour de mon étal. Jacques Jouet patauge dans la boue, mord son tuba, grelotte. Les hommes se détendent et plaisantent. Les femmes l'examinent attentivement. Enfin, ça force la clientèle à rester sur place. Le commis Simoneau le regarde avec admiration. Je suis obligé de le secouer. Pour payer son animation, je lui réserve une douzaine d'oursins. Et aussi, sous la glace, quelques palourdes. Ah, je m'en tire très bien. Sa présence a doublé mon chiffre d'affaires. Sacré poète.
C'est ce qu'il a dit, Hervé Letellier, oui.
Ouais, j'avais des chiffres un peu inférieurs. Oui. Mais bon, si oui. monsieur...
Oui, le réseau confirme, hein, les témoignages sont... Ouais.
Ah, mais il concorde. Simplement, vous nous aviez dit que c'était du tourisme, quoi. Et en fait, vous vous faites rémunérer.
Bon, mais ça, c'est nouveau. C'est nouveau, ça.
Ah, oui.
C'était pas le but au départ. Hein.
Oui, oui. Bon, mais enfin, vous avez profité de l'occasion, après tout. Oh. Hein. Pas, on vous jettera pas la pierre.
On est
hein.
humain. Hein.
Et oui.
Pierre.
Odile Conseil, alors, vous n'êtes pas Madame Burla. On a déjà fait sa connaissance.
Je suis la gendarme Conseil et je fais un rapport.
Ah, vous n'êtes pas d'accord. Aïe.
Ce jeudi, à 8h43, nous avons été alertés par un certain Simono, René, vendeur à la poissonnerie Lorenzo, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 273B4687598/0037, qu'un groupe d'individus étranges en maillot de bain et palme déambulait dans le marché Richard Lenoir face au 237 bis du 10 boulevard. Ces dires ont été confirmés par M. Burla Didier, marchand de fruits à l'enseigne chez Burla, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 781B76-2C-237-237/4, signalant que son épouse Burla Denise avait été agressée par une horde de touristes montrant des photos de ladite Burla Denise en train de se faire cueillir, non pas par nous les forces de l'ordre, seules habilitées à accueillir des individus, mais par un individu seul, propre sur lui, d'allure non suspecte à l'exception de sa tenue, et désireux eux aussi, il y a une astérix pour eux aussi, les touristes, de cueillir des cerises sur la personne de Madame Burla Denise. Monsieur Burla Didier a d'abord cru que ces individus voulaient que Madame Burla Denise leur serve à boire car il disait kirsch, kirsch, kirsch en la montrant ostensiblement du doigt. Grâce à l'agent Borgnol qui héberge en ce moment chez lui un collégien allemand dans le cadre d'un programme d'échange, tout est rentré dans l'ordre. Nous sommes allés chercher le jeune allemand au collège et l'avons amené sur les lieux où le calme a été rapidement rétabli.
Ça sent pas bon, ça sent pas bon.
Tout est réglé.
Ah, vous croyez ?
Ça s'est très bien terminé.
On n'a pas fermé le marché.
Il fait des émules dans le monde entier, c'est Jacques Jouet.
Enfin, il ne passe pas inaperçu.
Ah ben non, c'est comme ça qu'on l'aime d'ailleurs.
Déjà oublié les temps, tes malentendus et les temps perdus, à savoir comment oublier, c'est ça qui doit et pourquoi, à coup du pourquoi, et coup du bon noir, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je te
Elle a dit « Ne me quitte pas » par Buika.
France Culture, des papous dans la tête.
Françoise Tressard.
Eh oui, je suis là. Côté noir, humour noir, avec Lucas Fournier et Jacques Bertrand pour une lettre d'excuse et sa réponse. Certains, quand ils font une grosse bêtise, sont plus élégants que d'autres. Ils demandent pardon en écrivant une bonne, honnête lettre d'excuses bien circonstanciée. C'est vous, Lucas Fournier, qui présentez vos excuses, je crois. Cependant, à travers vous, c'est toute une corporation qui regrette.
Oui, c'est le corps médical, en l'espèce, qui s'excuse.
Ah. Oh.
Je tiens d'ailleurs à dédier ce petit texte à Jacques Bertrand, qui a écrit « Pourquoi j'ai mangé mon estomac
?»
Puisque, en réalité, c'est un de ses médecins qui aurait pu écrire cette lettre.
Mmh.
Je suis le docteur Gachet, chirurgien spécialiste des voies digestives. Et j'écris à mon patient, M. Boursinier. Donc, cher monsieur Boursinier, l'opération Overlord s'est bien passée. Je devrais écrire notre opération Overlord, car sans vous, rien n'aurait été possible. Beaucoup de mes confrères chirurgiens se félicitent légitimement du succès de leurs interventions, mais ils oublient trop souvent d'y associer les patients, sans le duodénum desquels ils n'auraient pas pu exprimer leur talent. Et l'appellation Overlord n'est pas usurpée. Vous êtes passé non pas Overlord, mais carrément very close to the Lord. Tout près de toi, my lord.
Oui. Oui.
Et puis, il m'a fallu attaquer par le flanc droit, côté foie, et en même temps sur le flanc gauche avec le côlon, et au centre, l'estomac. Les ennemis de l'intérieur ont été vaincus, les agents pathogènes éradiqués, la maladie écrasée, avec quelques pertes, c'est sûr. Mais, cher monsieur Boursinier, vous voilà libéré. Guéri ? Enfin, pas encore, mais vous serez sur pied dans un délai raisonnable et sans faire de pronostic ultra-optimiste, je crois pouvoir vous annoncer que si dans 5 ans, vous êtes encore parmi nous, c'est que vous serez rétabli. Je comprends que votre état présent vous empêche de m'exprimer votre gratitude et je ne vous en veux pas. Mais la guerre, monsieur Boursinier, ne se fait pas sans dommages collatéraux. Je veux d'abord saluer l'admirable abnégation de mon équipe, le docteur Tsetse, l'anesthésiste, mon interne, le docteur House, et mes deux assistantes, mesdemoiselles Atropos et Lachesis. Et je ne vous parle pas de notre jeune externe, Pamela Kukuro, dont c'était la première au front, ou plutôt à l'estomac. C'est une brune, aux yeux vifs, à qui la blouse légère va très bien. Et vous connaissant, je sais que vous l'auriez sûrement repérée si vous aviez eu l'idée d'ouvrir les yeux en plein milieu de notre petite affaire. Mais, malgré le dévouement de notre valeureuse escadrille, il s'est cependant passé un imprévu dont vous m'excuserez volontiers. Et je m'en suis aperçu en revenant chez moi. En voulant rentrer mon 4x4, mon véhicule de l'avant blindé, j'ai cherché le boîtier de la télécommande d'ouverture du garage. Introuvable. J'ai dû me résoudre à laisser mon véhicule couché dehors, mais bon, grandeur et servitude militaire. Heureusement, dès l'aube, le radiologue, le docteur Ray, m'annonçait la bonne nouvelle. Il avait retrouvé le boîtier, non pas sur mon bureau ou dans ma blouse, mais vous allez rire, dans votre estomac. Ou plutôt là où vous aviez précédemment un estomac. Comme si mon inconscient avait voulu vous laisser un symbole de mon talent dans l'estomac. Non, pardonnez ces saillies de carabin, mais vous savez, la chirurgie, c'est la guerre. Hein. Vous connaissez la leçon d'anatomie du docteur Tulp de Rembrandt. On est dans le lourd. Hein. Alors oui, il faut mettre parfois de la bonhomie dans les transaminases, de la facétie dans les calculs, du zygomatique dans le létal, sinon tu meurs. Ambroise Paré était très blagueur, vous le saviez ? Enfin bref, il m'a été assez facile de reconstituer l'incident. J'ai éprouvé un petit prurite au niveau de L4-L5 alors que je sectionnais votre intestin grêle. Aussi, j'ai demandé à mademoiselle Pamela Kukuro de bien vouloir me glisser une main sous la blouse pour me gratouiller le dos. C'était une question de vie ou de mort, enfin surtout pour vous. Elle l'a fait, et plutôt bien. Et j'ai alors éprouvé un petit frisson qui a fait dévier la trajectoire du bistouri vers votre foie. D'où la grosse hémorragie. Hémorragie, on réagit, comme disait Tchekhov. Enfin, il était médecin, c'est pour ça qu'il a autant d'humour. Bref, j'ai dit à Pamela, passez-moi un drain là dans ma poche. Un drain. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend dans leurs écoles ? Elle ne savait pas ce que c'était. Elle est jolie, on lui pardonnera. À la fin, elle a vidé mes poches sur le billard et comme je n'y voyais plus rien avec tout ce sang, mon boîtier de parking s'est retrouvé bêtement chez vous. Non, je sais que vous n'y en voudrez pas, elle est jeune. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, je vous assure. J'ai trouvé la solution. Quand j'arrive chez moi, je préviens l'infirmière, elle vous appuie sur le ventre et ma porte de garage s'ouvre. Non, c'est peut-être un peu douloureux, surtout parce que c'est pile sur la cicatrice, mais à la guerre comme à la guerre. Je me sens un peu responsable, mais pas coupable. Hein. Le coupable, en réalité, c'est vous, monsieur Boursinier, puisque l'objet en question semble avoir glissé vers le colédoc. Et vu que ce n'est pas là où nous l'avions laissé, je me demande ce que vous avez fabriqué. La bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas avoir besoin du 4x4 d'ici un mois. J'emmène Pamela Kukuro approfondir ses connaissances anatomiques à Saint-Martin. Vous saviez que Saint-Martin est le nom de ville le plus porté dans notre pays ? Saint-Martin, l'homme qui donna son manteau aux indigents. Saint-Martin, la générosité. Un peu ce qui nous caractérise tous les deux. Je vous confie mes clés de garage, gardez-les bien par-devers vous. Et encore, bravo pour Overlord, votre dévoué docteur Gaché.
C'est sympa, quoi. Enfin, oui. Vous lui glissez la lettre sur l'oreiller, j'imagine, parce qu'il est toujours à l'hosto.
Goutte à goutte.
Alors, écoutez, Jacques à Bertrand, moi j'ai envie de vous faire endosser le rôle de monsieur Boursinier.
Mais bien sûr.
Vous voulez bien, hein?
Mais bien sûr, cher ami.
Et alors, qu'est-ce que vous lui répondez, là, au grand patron?
Ah ben,
qui est quand même un peu désinvolte avec votre estomac, je trouve.
Oui, mais bon, c'est fait.
Vous pouvez regarder la télé, parce que vous avez la télécommande, c'est ça.
Non, puis, c'est pour ouvrir le garage.
Oui, mais peut-être que ça marche pour plein de choses différentes. Bon, alors.
Mais j'ai à le remercier aussi à mon tour. Il ne suffit pas de gâcher sa vie, encore faut-il gâcher celle des autres, disait je ne sais plus qui. Votre nom et votre renommée, cher docteur Gâché, disent tout le contraire. Oui, vous avez raison, on est dans le lourd. Et pourtant, je me sens terriblement léger. Vous m'avez probablement enlevé beaucoup plus d'éléments que vous m'en avez ajoutés. Cependant, je ne saurais trop vous remercier à mon tour d'avoir fait tout ça pendant mon sommeil. Il faut laisser les spécialités aux spécialistes, et eussé-je été éveillé, je n'aurais pu vous être d'un grand secours. Je regrette seulement de n'avoir pu faire la connaissance, je n'avais plus toute la mienne, de mademoiselle Pamela Kukuro, qui semble avoir apporté dans ce que vous appelez notre combat commun un petit drain de fantaisie, si ce n'est un petit drain de folie. C'est le genre de cas où même en tant que patient, on se sent prêt à entreprendre des études d'anatomie. Vous me présenterez cette jeune femme à de ces jours, je suppose. Vous serez contraint de me revoir bientôt, de toute façon. J'ai constaté que les infirmières de service doivent appuyer de plus en plus fort sur ma cicatrice. Il va falloir que vous songiez un de ces jours à changer les piles de votre boîtier de garage.
Comme quoi un drain peut en cacher un autre.
Sherry, I hope for you what I'm supposed to be. Is there a place, my baby? Is there a place for you and me? Oh, honey, when is the place to live this harmony? Is there a name for this country? I do believe in you and me. Why every day the deer they hold, you hold me down. We are not proud to gravity.
Just you and me, a place to be, par Framix. Les papous, c'est dans la tête et sur France Culture. À suivre jusqu'à 13h58, à mots couverts ou parlons-nous de la même œuvre. Et le DLA, diagnostic littéraire à l'aveugle, avec Eva Almassy pour le choix du piège et les experts Dominique Muller, Patrick Beignet et Patrice Minet. Voilà, nous allons tenter avec Jean-Bernard Pouy, Ricardo Mosner et Patrice Minet de parler de la même œuvre, mais sans la nommer. Ces trois-là se comprendront-ils? Chacun a sa personnalité, son monde secret. S'il raconte un roman, une pièce de théâtre, un tableau ou même un film, le message passera-t-il ou sera-t-il victime d'une chaîne de malentendus? Il arrive qu'on comprenne tout de travers. La forme du récit est libre. Poème, chanson, petite annonce, publicité, pourquoi pas? Les joueurs ont écrit pendant une bonne trentaine de minutes. Ils racontent, mais à mots couverts. Jean-Bernard Pouy, quand vous parlez d'une œuvre, c'est toujours foisonnant, c'est toujours merveilleux, ça nous entraîne toujours dans des mondes où on n'a pas toujours accès spontanément parce que vous êtes un imaginatif et quand vous parlez de quelque chose, bah, vous allez parfois très très loin.
Absolument.
Et ça va probablement être le cas puisque je vous ai demandé de nous raconter quelque chose, je ne sais pas quoi.
En plus, elle se moque.
Non, je ne me moque pas du tout.
C'est une annonce. Oui, une annonce genre mythique. Oui, oui, la forme. Mmh. Jeune célibataire, cherche compagnie. Je suis seul, c'est une femme. Je suis seul et en définitive, je ne le mérite pas. Parce que je suis belle, fraîche et comme le disent les jeunes, je suis bonne également. Vous allez me dire, pourquoi donc me retrouver aussi solitaire, quasi abandonnée? Vous allez me préciser que belle et attirante comme je suis, c'est donc qu'il y a un problème. Pour que je me retrouve ainsi solitaire et d'après les spécialistes, pour un bon bout de temps, voire pour certains, pour l'éternité. Ces problèmes, en toute sincérité, je les élimine dans l'ordre. Je sens bon, je peux me fondre dans le paysage, je ne coûte pas cher, je suis convivial, je ne crois pas être pénible, bien au contraire. Au printemps, quand la sève monte dans les arbres, c'est-à-dire quand le désir renaît, je me plais à constater que je deviens l'objet de beaucoup de convoitises. Mon problème majeur vient de là. On ne m'aime qu'entouré de mes copines et mes amoureux ne me supportent que peu toute seule. Non que je sois une adepte des parties fines ou des amours de groupe, non. Je ne crois pas non plus qu'une facette de ma personnalité oblige ou porte à ce genre de choses ou de pratiques. Mais c'est comme ça. Même si je suis comme les autres, même si je ne suis vraiment moi qu'en groupe, je me retrouve seul, presque abandonné. Parce que j'aime faire plaisir à l'autre. C'est ma nature. Je ne l'ai pas voulu, c'est comme ça. Je suis un peu la rose que l'on retire du bouquet, celle à qui l'on donne un pouvoir extraordinaire, celle qui doit exprimer une valeur ou un sentiment, celle sur qui on ne s'apitoie jamais, alors que l'essentiel de sa beauté réside, justement, dans l'explosion formelle et émotionnante d'un bouquet fourni. Mais je n'y peux rien, seul, on m'aime aussi. Seul, on m'aime ainsi. Je suis condamné à affronter le monde, les regards, l'avenir, seul, toute seule. Cette solitude, digne mais forcée, peut, selon les dires de beaucoup, être responsable de mon aspect terne, banal, inefficace. Pour d'autres, peu nombreux, mais amoureux de ma personne, bien au contraire, ce qui m'attend est de l'ordre du radieux. Pour eux, je deviens même un concept, un avenir. Voilà. Aidez-moi, mes semblables. Prenez-moi avec vous.
C'est un cri d'amour. Vous l'aimez vraiment, cette œuvre?
Ah oui.
Alors, c'est quelqu'un de solitaire, en tout cas, apparemment. Hein.
Oui.
J'ai envie de me tourner vers Jacques Vallée, parce que, bon, vous découvrez ce texte qui est un beau texte.
Oui, très très beau. C'est un peu dramatique.
Ah ouais, mais c'est du Puy qui vous touche au cœur, ça.
Oui.
C'est du très joli Puy. Mais malheureusement pour vous, hein, entre ce Puy-là et vous, il y avait Ricardo Mosner et Patrice Minet qui sont charmants aussi, touchants aussi, mais qui sont un petit peu dans d'autres univers. Alors je ne sais pas, juste comme ça, est-ce qu'il vous parle ce texte?
Ce texte me parle, mais ce que je pense, c'est que Jean-Bernard Puy risque de se sentir trahi par les personnes qui l'ont succédé. Ah oui, parce que j'ai l'impression qu'il prendra très très mal cette trahison.
Mais
parce
non,
que
mais non.
On aboutit à quelque chose qui est peut-être ce qu'il déteste le plus.
Ah bon? Oui. Oh là là. Restez avec nous, Jean-Bernard Puy.
Je ne sais pas.
Cependant.
On va voir.
Bon, donc Jean-Bernard Puy, tout à l'heure, dans le secret du studio, encore désert, vous avez passé votre texte à Ricardo Mosner, qui l'a lu. Il est fin, il est malin, Ricardo, donc il a tout de suite eu une idée de l'œuvre dont vous parliez. Et il s'est mis à écrire, lui aussi, sur cette œuvre. C'était transparent pour vous, Ricardo?
Oui, ben, en tout cas, j'ai une idée que je pense qu'elle est juste.
Oui. Et donc, vous en parlez sous quelle forme?
Ben, c'est une lettre, mais pas nécessairement une lettre qu'on envoie. Parfois, on fait des lettres et on les garde un peu entre les journaux et la lettre. C'est une lettre qui a été faite pour quelqu'un. Une personne.
Oui, et qui n'a pas été envoyée, c'est un brouillon.
Oui, c'est parce que ce n'était pas vraiment pour l'envoyer, c'était pour laisser peut-être un témoignage, quelque chose comme ça.
Ne prenez pas l'air inquiet, Jean-Bernard Puy.
Il y a de quoi, là.
Il est réfaré, oui.
Non, parce qu'il prépare le terrain, lui.
À mon avis, après vous, il s'est passé quelque chose de bizarre. Allez.
Elle est au coin. Elle est accompagnée, mais elle se détache par sa noirceur. Elle prend la place avec son masque. Elle est à moi, mais les autres aussi. Elle est de ma période romantique, mais les autres aussi. Je n'avais pas d'autres produits à ajouter, alors j'ai mélangé sa peau à l'eau de Cologne. Elle est méchante comme une bête cornée, mais c'est pour ça que je l'aime. Plus que les autres, mais les autres, je les aime pour d'autres choses. Ou je les déteste. Je crains que plus tard, quand je ne serai plus de ce monde, d'autres me la prennent, la manche du regard.
La manche du regard, c'est très inquiétant. C'est un joli texte aussi, oui, le texte de Ricardo Mosner. Je ne sais pas s'il parle de la même chose, Jean-Bernard Pouy. Vous avez l'impression qu'il vous a deviné ou pas?
Oui, il y a des, quand même pas mal de choses. Mais il y a la noirceur qui n'est pas dans mon texte.
Oui.
Là, il y a une noirceur terrible.
Moi, je comprends un petit peu. Je compatis avec vous, Patrice Minet. Je Merci. Vois votre air égaré parce que vous, évidemment, vous avez lu uniquement le texte de Ricardo, qui est un peu inquiétant, mais qui est intéressant aussi.
C'est-à-dire, la lecture n'a pas le ton de Ricardo. C'est quand même.
Évidemment, vous l'avez lu avec vos yeux. Vous c'est n'aviez vrai. Pas. Oui, c'est plus léger à la lecture.
Oui, oui, oui.
Avec vos yeux.
Oui, oui, moi j'ai vu et même entendu quelque chose de plus délicat, avec moins d'importance, c'est moins grave. Voilà.
La Donc, manche du regard quand même.
Voilà, il y avait de l'amour, il y avait des personnages qui sont colorés, qui ont des teintes différentes, qui sont plus dansants, quoi. C'est plus danse. Joyeux.
Ouais,
c'est une comédie musicale.
On peut dire qu'il y a de la musique. Oui, et la musique, c'est magnifique. Hein.
Bah, toujours,
de la musique avant toute chose, comme disait l'autre.
Toute la musique du monde. Patrice Minet, alors à votre tour, vous en parlez.
Alors, en m'appuyant sur le texte de Ricardo, qui, malgré son obscurité, me paraissait assez clair, j'ai donc concocté une petite chanson.
Oh, chic.
Et donc, je vais la chanter pour Jean-Bernard.
Merci, Patrice.
Tu es ému.
C'est sur quel air?
Il va reconnaître tout de suite. Ce sont deux femmes si belles. L'une est très blonde et l'autre rousse. Tout le monde est fou d'elle. L'une est piquante et l'autre douce. Alors après, pour la suite, j'allais pas donc
c'est
vraiment
le passage
dans la tête,
difficile hein. Après. Ouais.
J'aime beaucoup aller au cinéma. Ces personnages ne sont pas comme dans la vie. Le chante et danse à petits pas. C'était pas tant, si vous voulez, mon avis. Ouais, c'est pas tout à fait l'air, mais presque.
Ouais, mais ça, c'est
alors
pas
là, bon, il y a le retour du refrain. Hein. C'est-à-dire, ce sont deux femmes si belles. L'une est très blonde et l'autre, etc. Et on les aime encore en quittant la salle. On a payé seulement pour les voir. C'est comme si on les invitait au bal et à la fin, ce n'est qu'un au revoir.
Oh. Bon, c'est très mignon, mais vous n'avez absolument pas masqué l'œuvre à laquelle vous pensiez.
Si, c'est masqué parce que Jacques Vallée n'a pas entendu la musique.
Évidemment, il a lu avec ses yeux.
C'est quand même
uniquement.
L'essentiel.
Mais j'ai vu tout de suite deux sœurs. L'une blanche.
Évidemment.
Oui, parce qu'il y avait quand même, dans le texte de Ricardo, l'autre Cologne, qui m'a fait immédiatement penser à Catherine Deneuve.
Bon, en tout cas, Jacques Vallée, vous n'avez pas eu donc la version chantée, mais vous avez eu une version tellement transparente. Je sais que vous n'allez pas très souvent au cinéma, mais à mon avis, vous connaissez l'œuvre dont il est question.
Mais c'est une œuvre justement que défend beaucoup Jean-Bernard. Oui,
j'adore ça.
Demoiselle de Rochefort.
Ah, il peut en parler pendant des heures.
On sait tous que Jean-Bernard Pouy déteste les comédies musicales. Il le dit très souvent au Papou.
Celle-là, il l'a vu 50 fois, je ne sais pas.
Ah non, c'est la pire.
Les Demoiselles de Rochefort, Jacques Demy, c'est ça? Je ne me trompe pas.
Ah, c'est demi-quart même.
Bon, Patrice Minet, vous pensiez à ça?
Et oui, j'ai pensé immédiatement aux Demoiselles de Rochefort, avec Catherine Deneuve et sa sœur.
Françoise d'Orléac.
Voilà.
Bon, bah, entre eux, ça, la communication passe très bien. Il faut dire que Minet était transparent. Ça roule. Hein. Ça roule. On remonte jusqu'à Ricardo. Moi, je n'ai pas l'impression que vous avez voulu parler des Demoiselles de Rochefort. Si.
Non, mais ce n'est pas loin parce que c'est les Demoiselles quand même. Mais d'Avignon.
Les Demoiselles d'Avignon.
Oui. Et la lettre, c'est une lettre que Picasso elle écrit dans son journal, adressée à une qui est sur les côtés. La noirceur, c'est parce qu'elle porte une espèce de masque noir. Il a le visage noir.
C'est bien comme tu as dit, les Mademoiselles d'Avignon, c'est mieux que Demoiselles, je trouve.
Eh ben oui.
Les Mademoiselles d'Avignon.
Oui, ça a un côté aussi trottoir et tout ça, oui.
C'est explicite, c'est ça.
Donc il y en a une qui est retirée sur les côtés. Donc, qu'il apprécie particulièrement, mais il aime les autres aussi. Donc, il est un peu. Et surtout qu'à la fin du texte, puis il parle de l'éternité, du regard, donc quelque chose qui va être vu. Donc,
c'est vrai que c'est un tableau fameux.
Oui, évidemment. Mais là, pour moi, c'est une description. C'est assez frappant, la description d'un tableau. Dans cette,
Alors, sauf que, bon, Jean-Bernard Pouy parlait d'une. Vous en avez élu une parmi les autres, mais il y a pas mal de personnages.
Jamais seul, je ne suis jamais seul, j'ai accompagné.
Oui. Je ne sais pas, Jean-Bernard Pouy, vous parliez des Demoiselles d'Avignon de Picasso.
Il a trouvé que c'était un tableau.
Ouais, ça, c'est très fort. Ça, parce que déjà, c'est un tableau.
C'est un tableau. Ah. Mais alors qu'il n'y a rien à voir avec les demoiselles d'Avignon, ni de, d'ailleurs, c'est l'asperge de Manet.
Oh, qui est un de vos tableaux préférés. Hein.
L'asperge toute seule. Parce qu'il a fait la botte, mais après il en a fait une toute seule, qui est bien plus belle que.
Vendu moins cher. Hein.
Allez la voir au musée d'Orsay quand vous passez, c'est une merveille. Magnifique. Voilà, c'est l'asperge. Et... Alors elle est contente d'être toute seule, en plus c'est un cadeau. Hein. Historiquement, c'est un cadeau que Manet a fait à son commanditaire. Mais bon, en tant qu'asperge, elle préférerait.
Avoir des copines.
Elle préférerait la botte, comme on dit vulgairement. Mais bon, pour l'instant elle est toute seule. D'ailleurs, elle peint très très vite comme ça. C'est pour ça que je parle aussi de concept et d'avenir. C'est quand même un tournant dans la peinture, hein, le citron et l'asperge. Le citron, ça fait encore Chardin, mais l'asperge, ouais. Non. L'asperge, ouais. Ça fait...
C'est révolutionnaire.
À plein tuyau, voilà. Alors, au printemps, quand la sève monte dans les arbres, et c'est au printemps qu'on mange des asperges.
Oui, enfin, on ne mange pas que ça. Hein,
non, mais enfin, si vous voulez en manger en hiver, faut.
Puis ça ne grimpe pas dans les arbres, les asperges.
Donc beaucoup de convoitises. Voilà.
Vous pouvez tout justifier, hein. Oui, sûrement.
Ah oui, oui. Ben, je ne sais pas, par exemple, je vais me faire plaisir à l'autre, c'est ma nature.
Il n'y a que les asperges qui font ça.
Non, mais elles font particulièrement plaisir quand la saison arrive.
Oui. Hein.
Et après lier un peu la rose qu'on a retirée du bouquet, c'est vrai qu'une asperge seule, c'est un peu au moins à table, c'est décevant. En peinture,
oui, mais
c'est
en
formidable.
Même temps, c'est l'unique.
Mais si vous allez chez des gens et que vous donnent une asperge en entrée,
c'est un peu mesquin. Oui. Bon, Odile Conseil, vous n'avez pas joué avec l'asperge, avec les demoiselles de Rochefort, avec les demoiselles d'Avignon. Qu'est-ce que vous pensez de l'exercice là, de l'évolution de ce légume délicieux?
Passer d'une asperge aux demoiselles de Rochefort, je trouve que c'est une sorte d'exploit, un exploit collectif.
Paraíba, meu amor, eu estava de saída, mas eu vou ficar. Não quero chorar, choro da despedida, o acaso da minha vida, um dado não abolirá. Pois seguirás bem dentro de mim, como um São João sem fim queimando o sertão. E a fogueirinha, a lanterna de laser, ilumina os festejos do meu coração. Pois seguirás bem dentro de mim, como um São João sem fim queimando o sertão. E a fogueirinha, a lanterna de laser, ilumina os festejos do meu coração. Paraíba, meu amor, eu estava de saída, mas eu vou ficar. Não quero chorar, choro da despedida, o acaso da minha vida, um dado não abolirá. Pois seguirás bem dentro de mim, como um São João sem fim queimando o sertão. E a fogueirinha, a lanterna de luz, ilumina os festejos do meu coração. Pois seguirás bem dentro de mim, como um São João sem fim queimando o sertão. E a fogueirinha, a lanterna de luz, ilumina os festejos do meu coração. Saudade da Paraíba, como dói, os ônibus véi lotado e os combongói. Saudade da Paraíba, e como dói, os ônibus véi lotado e os combongói. Saudade da Paraíba, como dói, os ônibus véi lotado, curto calejadinho, vai. Olha esse pinicado.
Lui, c'est Richard Galliano. Les Jolis Dimanches, épisode 2. Façon Rimbaud, par Gérard Mordilla.
Le dimanche ivre. Comme je m'ennuyais aux dimanches impossibles, je ne me sentis plus épié par les buveurs. Le rouge pinard que j'avais pris pour cible, personne d'autre que moi n'en vit la couleur. J'étais soucieux de tous les vieux cépages, porteurs de gin flamand ou de sherry anglais, quand avec les buveurs, grand tapage je fis, le dimanche au violon, comme ça c'était complet. Dans les cahotements furieux des pavés, les poulets du dimanche avinés, ergotants, nous ont coincés tout vifs et nous ont embarqués. Au poste, effissa, ne perdons pas de temps. La flicaille a brisé mes envies légitimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots du dimanche assassin, éternelle victime, dix nuits à regretter d'avoir bu au goulot.
C'est l'heure du DLA.
France Culture, des papous dans la tête.
Françoise Tressard.
Le diagnostic littéraire à l'aveugle. Un jeu que vous plébiscitez à chaque rentrée des papous. Un jeu auquel vous participez chez vous, en toute quiétude. Moins exposé que vous êtes au risque de commettre l'erreur fatale à votre amour propre, devant témoin. Pour les nouveaux venus à l'écoute des papous, je dirais qu'il s'agit dans ce jeu, pour des experts qui sont des gens fins, cultivés, qui ont beaucoup lu, aujourd'hui Dominique Muller, Patrice Minet et Patrick Beignet, qu'il s'agit pour eux d'identifier l'auteur d'un morceau de littérature extrait d'on ne sait où, par le meneur du jeu, en l'occurrence la meneuse, Eva Almassy, et de l'identifier à l'aveugle avec des arguments, et littéraires si possible les arguments. Et puis viendra le moment de se prononcer, d'oser avancer un nom d'écrivain et d'attendre en seconde chance le choix entre les trois noms proposés par Eva. Dominique Muller, Patrick Beignet, Patrice Minet sont très concentrés. Et vous, vous êtes prêts chez vous? Bien. Eva Almassy nous fait la lecture, on l'écoute très attentivement.
Elle-même toute, c'est une vieille histoire, à l'exception des femmes perdues. Des émancipés à qui il manque la fibre maternelle. Par bonheur, je ne suis pas disposée à me laisser déchirer. La femme accomplie déchire quand elle aime. Je connais ces aimables ménades. Ah, quelle dangereuse, insinuante, souterraine, petite bête de proie. Et si agréable avec cela. Une petite femme qui poursuit sa vengeance culbuterait le destin dans sa course. La femme est indiciblement plus méchante que l'homme et aussi plus intelligente. Chez la femme, la bonté est déjà une forme de dégénérescence. Au fond de tout ce qu'on appelle les belles âmes, on trouve un déséquilibre physiologique. Je n'en dis pas davantage pour ne pas tomber dans le médicinisme. Même la lutte pour l'égalité des droits est un symptôme de maladie. Tout médecin sait cela. Plus elle est femme, plus la femme se défend de toutes ses griffes contre le droit en général, l'état de nature, l'éternelle guerre entre les sexes, la place sans doute au premier rang. A-t-on su entendre ma définition de l'amour ?
Alors, je vais préciser quand même pour vous qui nous écoutez que c'est un texte qui est plein de tirés, de points de suspension, de guillemets et d'italiques. Je ne sais pas si ça peut faire réfléchir davantage sur qui l'a écrit, ce texte. Mais on va voir. Vous avez l'air un peu sombre, Patrick Beignet. Ce texte fait problème.
Ce texte me rend sombre.
Oui.
Non, parce que c'est un auteur qui a l'impression qu'il n'y a pas foi dans le langage.
Ouais.
D'où cette multiplication de clins d'œil, si je peux dire, ou de réclamations à ce qu'on fasse attention,
ouais.
Que vous venez d'énumérer. Donc, si on écrit, en principe, on n'est pas amené constamment, deux fois par ligne ou presque, à attirer l'attention du lecteur sur le sens des mots. En plus, parmi tous ces mots, il y en a un dont je ne comprends absolument pas la formation, ouais. C'est le médicinisme.
Ah oui.
C'est un mot valise, certainement, mais je ne comprends pas ce qu'il y a dans la valise. Donc, cynisme est écrit comme le terme philosophique, ouais, mais oui. Médi, comment ça se conjugue? Lorsque Eva l'a lu, j'ai entendu le côté médecin, médecine, mais ce n'est pas ça que ça prétend dire, j'imagine. Même, ou alors c'est un jeu de mots auquel je ne suis pas sensible.
Bon.
Voilà, et puis je dirais aussi que dans... ce rapport incertain avec le langage. Alors, pour le coup, il y a un mot qu'il maîtrise et qui est un absolu, c'est « la femme ». Alors, l'emploi dans ce sens absolu, on pensait que... Enfin, j'aurais
C'est un texte visiblement récent, hein, avec l'égalité des droits ou des expressions qui remontent pas au XVIIIe siècle. Mais je n'aurais pas cru qu'on pouvait l'employer avec autant de certitude.
Encore aujourd'hui, la exactement. Femme, c'est ce la c'est femme. Ça. Donc, ce ne serait pas écrit par une femme.
A-t-on su entendre ma définition du texte?
Mais oui, c'est très très bien, très clair. Ah oui, c'est pas une femme qui a écrit ça, Dominique Muller.
Sans doute pas. Il y a une chose, il y a une phrase que je ne comprends pas à la fin. Oui. C'est donc plus elle est femme, plus la femme se défend de toutes ses griffes contre le droit. L'état de nature, la place sans doute au premier rang. Ma question est, au premier rang, de quoi,
quoi oui.
Alors, a-t-on su entendre ma définition de l'amour? Je répondrai non.
Bon, est-ce que vous pouvez aider, vous êtes un bon camarade, Patrice Minet, vous pouvez éclaircir le petit passage qui fait problème à Dominique Muller? Au premier rang de quoi? Vous avez compris, vous?
Non, mais je n'ai pas compris grand-chose. Voilà. Pour moi, c'est un texte presque médicaliste. Ça commence comme un texte de Desproges, elles m'aiment toutes. Qu'est-ce qu'elles ont à m'aimer, celles-là, ouais. Voyez. Et puis ça continue sur une espèce de constat physiologique et psychologique. Qu'est-ce que la femme? Et puis, avec des phrases que je trouve personnellement étranges, une petite femme qui poursuit sa vengeance culbuterait le destin dans sa course.
Ouais.
Voilà. Et ben moi, je suis culbuté aussi dans la course de cette phrase. Même la lutte pour l'égalité des droits est un symptôme de maladie. Tout médecin sait cela. Alors, bon... Il faut en aviser le Conseil de l'Ordre. Alors peut-être que c'est... Enfin, quand j'ai commencé à lire ce texte et quand je l'ai entendu, ça ressemblait plus pour moi à une lettre. Une lettre qu'on envoie qui a une espèce de liberté de ton. On ne fait pas bien attention à ce qu'on dit, on va trop loin. Et puis, quand on a écrit, on ne va pas revenir en arrière. Hein.
C'est quelqu'un qui ne se relit pas, donc.
Si, elle peut se relire, cette personne, mais elle se relit, mais elle ne se corrige pas.
Ouais.
Vous voyez?
Ouais. Paresseux.
Il y a une forme de lâcheté devant le travail. Et puis, c'est amusant aussi de raconter des bêtises dans la conversation. Si on ne raconte que des choses intelligentes, plus personne ne se parle. Il n'y a plus moyen de se contredire. Vous voyez? Il y a un côté... pour moi, je dirais pas relâché, mais c'est plutôt, allez, je te raconte n'importe quoi, on va rigoler.
Non, mais on rigole d'ailleurs. On rigole.
Mais on se comprend pas tout.
Non, on comprend pas tout. Dominique Muller, vous êtes d'accord avec Patrick Beignet sur le côté très récent de l'écriture de ce texte?
Eh bien, évidemment, l'indice, c'est la lutte pour l'égalité des droits, oui, ça, évidemment. Oui. Mais par ailleurs, elle est immédiatement contredite par cet état de nature qui semble... Alors j'étais, en écoutant Patrice, je me suis dit, mais au fond, est-ce que ça n'est pas... Ces mots ne sont pas prêtés à un personnage grotesque dans un énorme roman. Et je pensais à un roman russe, ce qui donc nous rejette avant la lutte, mais enfin pas tellement non plus.
Il y a encore des auteurs russes. Hein.
Oui, oui, mais je pensais plutôt à un roman russe classique d'un roman
bonne
fleuve,
saga, quoi.
Ou dans un train, une espèce de gros crétin serait là en train de professer des âneries.
C'est intéressant. Pour entraîner la galerie ou,
non,
ou pas.
Très sérieusement. Bouffi de lui-même, probablement, je ne sais pas, un médecin militaire, un général, quelque chose comme ça, qui serait en train de faire de grandes déclarations sur la femme.
Ouais, c'est pas mal comme idée.
Ça pourrait être comme du Dostoïevski,
voilà,
des fois.
Voilà, exactement.
Effectivement, ça pourrait être du coup un gros livre.
Un énorme livre,
écrit
un
long
voyage. Et alors, bon, si on suit la piste russe, évidemment, on est en présence d'une traduction. Mais sinon...
Une traduction de Pierre Desproges en russe.
Ah oui.
D'accord sur l'idée de traduction, Patrick Beignet?
Non. Non, il ne paraît pas nécessaire de recourir à cette extrémité. Non, je ne le sens pas dans les mots. Dans le fond, je suis tout à fait sensible à l'analyse de mes camarades, mais je... ne peut pas pointer quelque chose dans ce texte qui relèverait de la traduction. Et alors, tous les mots à guillemets, à italique, se justifieraient sans doute moins encore. Ou alors ce serait une incompétence ou une limite du traducteur qui serait un peu trop évoqué. Les femmes perdues, par exemple. Les femmes perdues, c'est un mot qui aujourd'hui est complètement démodé. Donc, ça n'a de sens que s'il est donné... comme démodé par l'italique. Donc ça ne peut pas être au premier degré, sans ça il serait... En outre, la juxtaposition des femmes perdues en italique et émancipées, entre guillemets, ça donne deux statues, alors que le sens est grosso modo relève de la même réalité passée, on ne voit pas pourquoi l'un sera en italique et l'autre en, entre guillemets.
Et alors je préciserai pour tout le monde que le médicinisme est entre guillemets, et que Médis, c'est M-E accent aigu D-I, trait d'union, cynisme comme le cynisme, c'est Y-N-I-S-M-E.
Heureusement que c'est entre guillemets, vous ne voudriez pas que c'est entre guillemets, Françoise ?
Je ne sais pas, non, enfin bon, mais ça ne me dérange pas.
Dégénérescence est en italique.
Oui.
Et pour moi, ça date.
Ah ben oui.
Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Vous voulez bien nous relire ça, Eva Almassi ? Essayez de nous l'éclairer un petit peu par votre façon de le dire.
Elles-mêmes toutes, c'est une vieille histoire, à l'exception des femmes perdues, des émancipées, à qui manque la fibre maternelle. Par bonheur, je ne suis pas disposée à me laisser déchirer. La femme accomplie déchire quand elle aime. Je connais ces aimables ménades. Ah, quelle dangereuse, insinuante, souterraine petite bête de proie. Et si agréable avec cela. Une petite femme qui poursuit sa vengeance culbuterait le destin dans sa course. La femme est indiciblement plus méchante que l'homme et aussi plus intelligente. Chez la femme, la bonté est déjà une forme de dégénérescence. Au fond de tout ce qu'on appelle les belles âmes, on trouve un déséquilibre physiologique. Je n'en dis pas davantage pour ne pas tomber dans le médicinisme. Même la lutte pour l'égalité des droits est un symptôme de maladie. Tout médecin sait cela. Plus elle est femme, plus la femme se défend de toutes ses griffes contre le droit en général. L'état de nature, l'éternelle guerre entre les sexes, la place sans doute au premier rang. A-t-on su entendre ma définition de l'amour ?
Alors, pas sûr, mais on va faire un petit résumé de la situation. C'est peut-être écrit en français, peut-être pas, auquel cas ce serait peut-être une petite page russe.
Pour moi, c'est probablement écrit en
pour
français.
Vous, oui.
Ou en anglais.
Moi. Non, ouais. Moi, maintenant, je mets ça en Europe centrale.
Ah, bon. Alors, il y a l'hypothèse de Dominique, qui est assez séduisante, d'un personnage comme ça, qui fait irruption et qui fait son grand numéro très sérieusement, mais qui, en fait, barbe tout le monde.
Personnage ridicule, qui doit être assez laid, en plus, et assez vieux, qui dit elle-même toute. C'est une vieille histoire.
Ouais.
C'est vrai que l'hypothèse est très séduisante.
Oui.
La seule chose qui, à mon sens, ne cadre pas avec, ce sont les derniers mots. A-t-on su entendre ma définition de l'amour ?
Oui.
Il y a une distance, tout à coup.
Oui, mais peut-être qu'il s'adresse aux gens qui sont soit dans ce compartiment, soit j'ai changé mon fusil d'épaule, dans une salle à manger, en train de pérorer à table.
Oui, mais enfin, si on oppose ces derniers mots au tout le reste du paragraphe, il y a un peu d'intelligence et d'ironie possible dans cette question.
Ben, si on en reste à mon personnage, il pose la question très sincèrement aux gens qui sont à table avec lui.
Sans ironie.
Voilà,
sans ironie.
Et il attend que, vous savez, c'est comme ces endroits où les gens se retrouvent, je ne sais pas moi, les établissements de cure, vous voyez peut-être venir, où les gens au fond ne se connaissent pas tellement et discutent sur le monde, les femmes, les choses comme ça. Et donc, une espèce de débat.
Non, mais ce n'est pas inintéressant du tout, oui, Patrice Minet.
Oui. Non, c'est pas intéressant. Ouais, le côté médical qui pourrait être donc se passer, je ne sais où, à
d'où
Vichy,
la maison de cure, justement. Ouais. Bah oui, évidemment.
Voilà.
Et si j'ai rajouté le côté Europe centrale, c'est à cause de dégénérescence, belles âmes, déséquilibre physiologique. Il y a tout le côté premier balbutiement de la psychanalyse, Charcot, les hystériques, enfin, tout ce moment de l'histoire où on s'intéresse à c'est quoi une femme ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Alors, on va peut-être livrer des noms. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez... Bah, Dominique, puisque vous venez de disserter sur l'Europe centrale, etc., je suppose que vous avez un nom qui va dans ce sens.
Je reste péremptoire, donc. Et ça pourrait, de mon point de vue, être soit un court texte de Zweig, parce qu'il y a des tas de petites nouvelles, hein. Soit alors une montagne magique de Mann.
Thomas Mann. Voilà. Oui, c'est le côté les curistes qui discutent.
Avec beaucoup, il y a énormément de digressions justement aussi. Sur ceci, cela, et pas mal de personnages ridicules.
Ah, Patrick Beignet.
Écoutez-moi, d'emblée, ça m'a fait penser à Philippe Solers, qui est notre auteur russe le plus célèbre du moment. qui est capable d'écrire ce genre de choses, mais
oui,
à la première...
Oui, dans Femme, c'est ça, il a écrit un roman qui s'appelait Femme, c'est ça. Oui, bien sûr.
Donc, voilà, alors, il y a une petite dose d'ironie et une grosse dose d'orgueil d'être soi-même. C'est peut-être un peu méchant de penser que c'est de lui, mais ça ressemble quand même. Bon, il n'irait pas jusqu'au médicinisme, des choses comme ça, mais moi, ça me fait penser à ça, l'air.
Eh bien, écoutez, c'est votre droit. Patrice Minet.
Alors, moi, je suis très loin de ça. Au début, je me suis dit, c'est Philippe Ross, c'est Portnoy.
Ouais.
Et puis, dans le texte, il y a des choses qui sont vieillottes. Ouais. Et j'ai pensé aussi à des lettres de Flaubert, à Louise Collet, où de temps en temps, ils se lâchent.
Et le côté ne se relie pas.
Enfin, c'est-à-dire qu'il veut la faire rigoler.
Vous aviez parlé tout à l'heure, oui.
Il voulait l'amuser, vous voyez. Il préférait dire des bêtises plutôt que de rien dire. Et voilà, ça donne du charme à ces... Et puis, il y a encore un auteur, en dehors de Tchekhov, ça me fait un peu penser à, des fois, à Tennessee Williams. C'est-à-dire que les nouvelles de Tennessee Williams sont absolument sublimes. C'est parmi les plus belles que je connais. Et de temps en temps, il y a des personnages qui font irruption comme ça et qui racontent des conneries. Mais elles racontent des conneries parce que c'est pas qu'elles sont connes, c'est parce que les choses sont trop raisonnables. Et de temps en temps, les gens, ils ont besoin de se dépasser, de dépasser leurs pensées, etc. Et le côté théâtral de Tennessee Williams, il sort parfois comme ça dans ses nouvelles. Voilà.
Alors pour choisir, c'est trois noms quand même. Ouais. Flaubert, Tchekhov, Tennessee Williams.
Vous en voulez encore?
Non. Peut-être deux seulement. Vous éliminez qui?
Je garderai Tennessee Williams.
Tout seul? Ah, Flaubert, fini.
Oh, Flaubert, ça me paraît un chouïa trop moderne pour Flaubert.
Allez,
mais...
Tennessee Williams. Bien, alors Eva Almassy, un beau panel vous est proposé. Dominique Muller pense à Thomas Mann ou à Stefan Zweig. Patrick Béni à Philippe Solers. Ma foi, il est très affirmé, son Philippe Solers. Et Patrice Minet à Tennessee Williams. Y a-t-il un gagnant?
Pas au premier tour.
Oh, désolée.
Enfin, moi, je suis la grande gagnante jusqu'ici parce
oui,
que
absolument.
Je me suis très bien marrée. Et donc, j'ai...
Ouvrez votre petit papier.
Pour les trois noms que je vous propose, par ordre alphabétique naturellement, j'ai Céline, j'ai Nietzsche et j'ai Tolstoï.
Il y a du roman russe.
Il y a du médecin, il y a de l'Europe centrale et il y a du russe.
Alors, Céline, Nietzsche, Tolstoï, ma foi, c'est intéressant comme choix. Qui veut réfléchir en premier? Patrice Minet?
Alors, j'avais écrit Céline.
Ah bon? Montrez-moi votre femme.
Je vois Tolstoï aussi.
Ah, mais oui, mais il est trop fort, Minet.
Oui, mais je ne pouvais pas citer tous les noms que
vous aviez écrits.
J'en ai écrit 360 en 10 minutes.
De tous les côtés, je suis témoin.
Voilà. Et oui, il y a le côté énervé de Céline. Et le côté aussi apparemment misogyne de Céline, vous savez, dans certains moments...
Oui, mais c'est un piège.
Il dit beaucoup de mal des petites américaines, par exemple. Il raconte à quel point elles sont attendrissantes, charmantes, etc.
Et bon, puis, pas de digression.
Et puis, voilà. Alors Nietzsche, non, je ne vois pas. Et Tolstoï, peut-être. Mais je dirais Céline.
Bien. Dominique Muller.
Eh bien, je reviens à mon type ridicule dans le train et je vais dire Tolstoï.
Tolstoï, évidemment. Ouais. Bah, c'est cohérent avec tout ce que vous nous avez dit au début. Et pour Patrick Beignet, ce sera...
Je vais prendre le... Tu as dit quoi, toi, Patrick?
Je ne sais plus.
Céline.
Oui, bah, moi, je vais prendre le troisième disponible. Nietzsche. Oui.
Avec un argument.
Les belles âmes, la belle âme, c'est un terme qui est dans la culture allemande qui existe, comme tel. Et puis, il y a une énergie, il y a une vision violente et agressive qui est... Et sur la défensive, disons, en même temps, qui me paraît cadrer tout à fait avec l'image que j'ai de Nietzsche.
Et il a voulu nous faire sourire.
Ah non, pas du tout.
Non, justement, il ne rigolait pas du tout.
Et puis des trois, c'est le seul que je pourrais imaginer inventer du médicinisme. Mais enfin, je ne sais pas.
Alors, nous avons un Céline pour Patrice Minet, un Tolstoï pour Dominique Muller, un Nietzsche pour Patrick Beignet. Il y a forcément un ou une gagnante.
Ah bah forcément.
Oui, et alors
mais il y a un gagnant. Ah. Je suis désolée pour Dominique, c'est pas une. C'est Patrick, c'est Nietzsche. C'est Nietzsche.
Incroyable.
Patrick est un grand connaisseur de Nietzsche.
Trop fort, Patrick.
Voilà, c'est dans Ecce Homo, pourquoi j'écris de si bons livres. Alors, que Dominique a donné tout le portrait avec outrecuidance, bouffé de lui-même, se prend au sérieux, la langue allemande, et en plus Montagne magique, où il y a deux philosophes, dont un bien nietzschéen, qui s'affrontent, et après il change et il revient à du Tolstoï, mais c'est dommage. Mais elle a facilité le travail de notre vainqueur.
Oui, on peut lui donner la moitié du prix, quand même.
Non.
Un tiers.
Et qui était le seul, quand même, de prononcer le mot philosophie. Donc, terme philosophique, au début. Et puis, pas de fois dans le langage, ça, je ne suis pas du tout certaine de ça. Mais il dit le mot qu'il maîtrise, c'est la femme, l'absolu. Et alors, tellement absolu que c'est une seule femme, c'est Cosima Wagner. C'est pas n'importe quelle femme. Et alors, avec les bêtises, les conneries de Patrice, alors qu'est-ce que je me suis amusée. Et quelqu'un qui se relâche, qui écrit n'importe comment.
Et qui ne se relie pas, oui.
Par contre, il a bien parlé de liberté de ton et surtout, c'était le seul à vraiment souligner le mot dégénérescence, oui. Qui non seulement date, mais c'est une signature du même que cynisme. Moi, je pensais que ce serait trop facile, notamment pour notre vainqueur, Patrick, que j'imaginais tout de suite prononcer le nom parce que c'est signé dégénérescence et puis cynisme. Voilà, c'est tout Nietzsche.
Eh bien, Patrick Beignet, bravo.
Tout Nietzsche.
En tout cas, ça me donne envie d'écrire un roman russe dans un train.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin. Bienvenue chez les papous, Anne. Et l'ami Bernard Laniel, un numéro des papous à retrouver sur franceculture.fr. Pour la réécoute pendant 1000 jours et le téléchargement pendant un an. Et puis, vous pouvez déposer vos remarques, questions, suggestions, rubrique commentaires des papous du jour et vous balader dans nos pages Vie du Club et Livre des papous pour tout savoir des activités des écrivains, peintres, musiciens et chanteuses de notre petite bande. Voilà, on se retrouve dimanche prochain et pour l'heure, je passe le témoin à Antoine Perrault pour Tire ta langue. C'est dans une poignée de secondes. Passez un très bel après-midi à l'écoute de France Culture.